mes impôts. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où on pourrait me dire que, finalement, payer des impôts, ça peut être utile, ça relève du bien commun. C'est très rare qu'on fasse l'éloge des impôts. En tout cas, là, Alexis Spire, vous nous dites pas tout à fait comment payer moins d'impôts, mais vous nous dites comment ça fonctionne, comment fonctionne le contrôle, comment fonctionnent les contrôleurs des impôts. C'est une observation sociologique ?
Oui, c'est le fruit d'un travail de terrain de longue haleine. Une chose est sûre, c'est que comme vous dites, la volonté de payer moins d'impôts, elle est de plus en plus partagée par le fait que l'impôt est décrédibilisé. Et il y a on sort d'une période de consensus antifiscal qui est très forte, y compris au plus haut sommet de l'État. Et face à ça, en fait, il faut aller regarder de près pour voir quelles sont les possibilités de contournement et de stratégie qui sont laissées justement à ceux qui ont affaire à l'administration fiscale. Et donc j'essaye d'aller contre plusieurs idées reçues et aussi j'essaye de décrire une transformation, à mon avis, fondamentale de l'administration fiscale qui s'est produite essentiellement dans la fin des années 90 et durant toutes les années 2000. Où on a une espèce de théorie importée d'ailleurs essentiellement des États-Unis sur la compliance qui consiste à dire que finalement il faut favoriser le civisme fiscal et donc concilier et se montrer de plus en plus conciliant et faire que les gens payent de leurs impôts de bonne volonté. En fait, derrière cette théorie social blind se cache en fait des possibilités
social blind,
c'est-à-dire en fait indifférente aux différences sociales, en fait, hein, aux classes sociales. Par référence à color blind, qui est plutôt indifférente à la couleur de peau. Là, c'est social blind dans le sens indifférente aux classes sociales et aux possibilités qu'ont justement les contribuables de s'arranger avec la contrainte. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que par type d'impôt, si vous prenez un impôt comme la taxe d'habitation, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour y échapper. Si vous prenez un impôt comme l'impôt de solidarité sur la fortune, dans les manières de déclarer, de déclarer ses biens immobiliers, de déclarer ou non ce qu'on a à l'étranger, etc., il y a beaucoup plus de marge de manœuvre et que ces marges de manœuvre sont accentuées par le fait qu'on peut s'entourer de conseillers fiscalistes, de spécialistes en optimisation et que...
Là, vous parlez d'une manière un peu théorique, mais dans le papier, c'est beaucoup plus vivant que ça. Hein. Vous décrivez un monsieur respectable qui vient discuter avec le contrôleur et qui dit j'ai une maison là, mais enfin l'intérieur est déplorable. Là, j'ai de la terre, mais alors ça ne rapporte absolument plus rien. Voilà pourquoi j'ai indiqué que ça valait 15 000 euros, etc. Plus loin, vous racontez quand même le gars qui vient avec son avocat, avec son conseiller fiscal, qui engueule complètement le contrôleur et qui menace de poursuivre l'administration. Ça, on dirait que c'est des dialogues que vous avez constatés dans votre travail.
Voilà, c'est ce que permet de voir, disons, toutes ces manières de discuter l'impôt, qui effectivement, qui sont extrêmement concrètes, où on croit souvent que finalement n'ont affaire à l'administration fiscale que les personnes imposables. Or, en fait, quand on fréquente un peu les centres des impôts, on se rend compte que justement au cours de ces années, l'administration fiscale est aussi devenue une référence très importante pour contrôler, disons, toutes les populations qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Des prestations sociales et que donc par un contrôle par capillarité justement les fichiers peuvent s'interconnecter, etc., c'est devenu de plus en plus automatique de contrôler les populations qui dépendent des subsides de l'État social et que par comparaison, il y a justement tous ces mécanismes de conciliation, de transaction par lesquels, disons, les plus fortunés peuvent s'arranger, domestiquer la contrainte fiscale. Et effectivement, j'essaye de rendre ça vivant en montrant que finalement, c'est précisément cette évolution de l'administration fiscale conduit à démultiplier, disons, les possibilités de contournement pour ceux qui justement qu'ont les moyens et de tracer ce continuum entre conciliation, optimisation et fraude.
Les contrôleurs des impôts sont des gens responsables, sont des fonctionnaires responsables. Il y a des syndicats d'impôts, il y a des tas de gens sérieux, des militants, des gens qui ont la pleine conscience de leur mission.
Mais c'est ça qui est très frappant, en fait, hein, c'est qu'effectivement, la particularité des contrôleurs des impôts, c'est qu'ils sont très attachés à défendre le bien commun, à défendre l'État, et parfois même...